Lors de notre dernier voyage au Mexique, nous avons vu voler les hommes oiseaux qui descendaient doucement dans l'espace. Nous avons compris que le chiffre 5 était important. Il y avait ce cinquième homme qui restait au sommet du mât et qui jouait de la flûte et du tambour. Nous avons dansé 10 jours et 10 nuits. Nous avons vu des gladiateurs qui luttaient contre des guerriers armés. Nous avons vu mourir certains hommes sur la pierre des sacrifices. Et nous avons compris que la balle de caoutchouc devait passer dans un anneau de pierre. Nous avons joué, nous avons compris que le destin, le hasard, était une chose très curieuse chez les Aztèques. Et nous avons vécu un peu comme les premiers conquistadors qui ont découvert, oui, cette balle étrange qui rebondissait comme à nulle part ailleurs. On ne connaissait pas le caoutchouc, bien sûr, en Espagne, on s'amusait encore avec des vessies de porc. On associait la balle à du vif argent. Est-ce que vous avez déjà regardé du mercure? C'est vrai que c'est une chose qui nous échappe, une chose qu'on ne comprend pas, une chose qu'on ne saisit pas. Le jeu, le hasard, le destin, c'est quelque chose que l'Espagnol n'a jamais compris lorsqu'il a rencontré le premier indien du Mexique. Quand on parle de tradition, quand on discute aujourd'hui autour de cet étrange jeu, vous savez que le jeu de balle, c'est une chose qui a été constante dans tout l'univers précolombien. Je dirais même que c'est peut-être l'idée fondatrice de tous les centres cérémoniels que l'on peut voir au Mexique, parce que partout le jeu a eu cette importance cosmique. Et souvent, lorsqu'on fondait une ville, on enterrait une petite maquette du jeu de pelote, simplement pour montrer qu'il rassemblait toutes les forces de l'univers et qu'il avait par sa forme, essayez de l'imaginer, c'est un double T. Je m'explique, il y a un T avec la barre à l'extérieur, et puis en face, vous en mettez un autre avec la barre également à l'extérieur. Donc on a affaire à une sorte d'étrange forme allongée sur la partie centrale, avec deux petites aires à chaque bout, et au centre, vous allez placer les anneaux en plein centre, oui, en plein milieu, à une certaine hauteur. Et aujourd'hui, nous irons visiter un des jeux peut-être les plus fascinants, celui de Chichen Itza. Il fait 120 mètres de longueur, il a des anneaux fixés à 9 mètres, on a l'impression qu'ils sont impossibles à atteindre. Je reprends la balle. La balle est en caoutchouc, elle fait entre 1 kg et 3 kg. On vient d'en retrouver d'ailleurs sur des sites Olmec de la toute première époque du Mexique, des balles qui ont aujourd'hui pratiquement 3000 ans et qui ont été conservées par le hasard. Le hasard qui les a conservées simplement parce qu'elles étaient dans de la boue, en compagnie de statues de bois. On a même retrouvé des tissus. Et nous savons aujourd'hui que ces balles étaient capables de rebondir de façon extraordinaire puisqu'elles étaient pleines. Et étant pleines, il fallait naturellement les faire rebondir. Or, un homme normalement constitué, devait le faire sans les mains et sans les pieds. Alors essayez d'imaginer par où vous pouvez faire rebondir une balle, sur quelle partie de votre corps. Eh bien, on va choisir de créer une sorte de joug. Un joug qui sera certainement en bois, doublé avec du cuir que vous placerez autour de votre taille. On aura même des sortes de battes, des battes assez étranges, un peu comme nos battes de baseball, mais plutôt aplaties, un peu comme une grande langue. On aura certainement aussi ces étranges fers à repasser, comme je les appelle, les formes en bois qui vous permettent de le tenir, bien sûr, par la main. Et en tout cas, au départ du jeu, de la faire rebondir une première fois. Et ensuite, vous vous arrangez avec vos hanches, vous vous arrangez peut-être avec vos coudes bien rembourrés de coton. Vous savez que le coton est une chose qu'on utilisait beaucoup chez les précolombiens. Et il y aura votre genou qu'il faudra aussi bien rembourrer, un peu comme on le fait chez les joueurs modernes. On devait ressembler un peu à un footballeur américain. On devait se défendre contre les coups, mais on devait aussi se défendre lorsque tout à coup on se lançait au sol. La seule partie qui n'était jamais utilisée, c'est la tête. Je vous assure que quand vous recevez une balle de 1, 2 ou 3 kilos sur le coin du crâne, ça devait faire très très mal. Des équipes qui peuvent aller de 2 à 7 joueurs de chaque côté et des parties qui devaient durer très très longtemps. On s'imagine même qu'elles devaient durer plusieurs jours parfois. Ce qui nous fait mieux comprendre la difficulté et la volonté de cette difficulté, c'est-à-dire de ne pas vouloir passer forcément à chaque coup dans l'anneau. de cet anneau que je situais tout à l'heure à 9 mètres de hauteur, je pense que c'était un véritable miracle lorsque tout à coup quelqu'un obtenait ce résultat. Ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai visité pour la première fois Chichen Itza. Chichen Itza, je vous situe l'endroit. D'abord, vous êtes sur une plaine incroyable qui fait des centaines de kilomètres. On a en tout cas l'impression de voir une sorte de mer de verdure à l'infini. Vous êtes entre 8 et 12 mètres d'altitude. Vous êtes à 40 mètres de cette mer qui est à la fois Atlantique et Caraïbe. Vous êtes à la pointe du Yucatan. Et là, en plein Chichen Itza, on a construit des pyramides. Bien sûr, la grande pyramide du Castillo avec ses serpents à plumes qui descendent depuis le dernier étage. Il y a ces marches qui montent 4 fois 91 marches qui nous donnent 365 jours. On a un temple de Vénus, on a un temple des guerriers, on a un observatoire. On sent que chaque chose a été mise en place, mais il y a ce lieu très fort du jeu de pelote, ce jeu immense que j'évoquais tout à l'heure avec ses 120 mètres de longueur, et puis ces murs qui montent à pratiquement 10 mètres pour que l'anneau puisse être suspendu, fiché dans la masse et le mortier à 9 mètres. Un anneau qui est grand. Ouvrez vos deux bras et refermez-les. Vous allez voir, vous aurez à peine la grandeur de l'anneau, et en définitive le trou lui-même était plus grand qu'un disque 33 tours, et il est placé là-haut. Et la première chose qui m'a choqué, c'était de voir le dessin de l'anneau des deux côtés extérieurs, c'est-à-dire il est coupé comme une sorte de fromage, hein. Vous imaginez une meule de fromage avec un trou au milieu, et bien vous avez deux serpents qui ondulent doucement et qui se croisent sans arrêt et qui font tout le tour de l'anneau. De l'autre côté, il y en a encore deux, et sur la tranche elle-même du fromage percé, si vous voulez, vous avez encore deux serpents. Or, ce chiffre de 2-2-2, ce chiffre 6, m'a beaucoup intrigué parce que, incontestablement, une fois qu'on a repéré l'anneau, on descend avec les yeux et on remarque que sur l'air du jeu, sur les côtés de l'air, des deux côtés de ce long couloir qui fait pratiquement, je ne sais pas, 30 ou 40 mètres de largeur, il y a des sortes de talus de pierre parfaitement taillés et jointoyés, et en même temps il y a 6 positions. Il y a de grands serpents à plumes qui longent le mur, et tout à fait au bout vous avez deux figurines semblables, enfin deux reliefs semblables, au centre encore la même chose, et tout au bout on répète cette même scène. Et quand on s'approche de la scène, on commence à comprendre. Il y a d'abord en plein centre une balle énorme qui est presque aussi grosse que l'anneau. À l'intérieur de la balle, il y a une sculpture très délicate, c'est une tête de mort. Une tête de mort qui paraît terriblement vivante. Vous connaissez ces étranges squelettes du Mexique contemporain qui sont faits en papier mâché. En général, elles ont un sourire absolument sarcastique, elles ouvrent la bouche. Et bien là, c'est un crâne décharné qui a la bouche totalement ouverte, avec une sorte de rictus. Et de sa bouche sort, comment vous dirais-je cela, une sorte de double langue, une sorte de volute, comme s'il y avait encore du souffle, comme s'il y avait encore de la vie à l'intérieur de cette tête de mort. Et cette balle paraît être véritablement le centre de la scène. Juste à côté d'elle, sur la gauche, vous avez un homme qui est debout, totalement harnaché, avec son joug, avec sa batte qui est fichée dans sa propre ceinture. Vous le voyez avec des plumes sur la tête, il est véritablement, je dirais, décoré. On a l'impression qu'il sort pour une grande fête. Il a bien sûr le genou rembourré, on remarque les cotonnades que j'évoquais pour les coudes. Et finalement, il tient dans une de ses deux mains un énorme silex taillé en forme de poignard, comme une grande amande bien pointée. Et dans l'autre main, il a une tête tranchée, une tête qui a été coupée de façon violente. Ça se remarque, il tient simplement la chevelure dans sa poignée de main. Et on remarque alors immédiatement que cette tête saigne encore. Mais ça n'est pas du sang. Si vous regardez de près, il s'agit en fait de plumes, de grandes plumes de Quetzal. Le Quetzal, c'est cet oiseau vert qui existe dans les terres chaudes du Guatemala ou du Mexique Sud. Un oiseau très rare qui donne justement la couleur de la fécondité, de l'eau précieuse, de tout ce qui est vivant. Moi, je l'appelle la chlorophylle. C'est un peu l'idée du sang, bien sûr, vous l'avez compris. C'est cette idée de la régénération. Et de l'autre côté, juste en face de la balle, vous avez le deuxième guerrier. Il est à genoux. Il est à genoux, mais il tient encore son fer à repasser dans la main, là, comme s'il allait encore jouer. Il est appuyé sur son rembourrage. Il a une position solide. Et pourtant, on remarque que sa tête est totalement tranchée, bien sûr, puisqu'on ne voit que le cou. Et de son cou sortent 7 serpents, ou plus exactement 6 serpents, qui s'ouvrent, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et le 7e serpent vient de se transformer en une immense fleur, une plante tropicale qui envahit petit à petit toute la sculpture. Et un peu partout, il y a des boutons, il y a des fleurs qui s'ouvrent gentiment. Et on a l'impression qu'on va pouvoir faire rejaillir cette plante sur l'ensemble, y compris la balle. Et puis vous la voyez qui glisse ensuite à droite sur les 6 derniers joueurs qui attendent patiemment avec leurs instruments dans leurs mains, qui glisse à gauche vers les 6 joueurs gagnants. Un capitaine qui est triomphant, un capitaine vaincu, un sacrifice humain, une façon de dire que de ce sang, de ce coup, de ce corps qui est à la fois animé et décharné, désanimé, de cette tête, de ce cadavre qui n'est qu'une balle de jeu, de la mort elle-même, sort la vie. Pour un précolombien, entre la naissance et la mort, il n'y a que le fait d'avoir commencé avec une énergie et de la retransmettre à d'autres, à tous ceux qui ont vécu ici à Chichen Itza, pour le peuple, pour le maïs, pour l'agriculture, pour le commerce, pour que des guerriers, des joueurs de pelote continuent à pouvoir jouer. Une énergie qui est en fait à la fois le moteur du temps, le moteur du cosmos. Imaginez-vous, la balle a passé il y a quelques heures ou quelques minutes à travers l'anneau. Elle vient de marquer les 6 positions de l'année, les 2 équinoxes, les 2 solstices, et puis bien sûr ces deux passages du soleil en plein zénith, celui qui a vaincu toute énergie, il n'y a plus d'ombre, il n'y a que la force absolue de cet astre implacable qui a marqué toujours le ciel du Yucatan, comme si cette terre sèche, sans eau, avec une nappe phréatique étrange qui n'est là qu'en surface lorsque on voit ses yeux géants qui sont des puits, puis sacrés, les cénotes, qui apporteront l'eau toute l'année, c'est vrai, mais il faut aller la puiser, il faut prendre votre jarre, il faut descendre dans le puits, ou alors prier, jeter d'autres personnages vivants à l'intérieur de ce puits pour que là-haut, les cumulus reviennent et que cette immense tempête qui vient de l'Atlantique ou des Caraïbes ne se transforme pas en cyclone, mais en eau douce, cette eau qui va faire pousser le maïs. Mettez-vous pour quelques instants dans la peau du vaincu. Pour quelques instants dans la peau du vainqueur. Essayez d'imaginer ce qu'un précolombien qui acceptait de jouer à la pelote subissait ou pensait tout simplement. Parce que cette tradition aujourd'hui qui prétend que les jeux de balle ou une partie se soit toujours terminée par un sacrifice, par le sacrifice du capitaine de l'équipe vaincue, c'est une vérité qui est peut-être simplement basée sur cette observation qui remonte à peu près en 1920 lorsqu'on a découvert ce jeu de pelote de Chichen Itza. Et je vous dirais que ces bas-reliefs qui nous montrent cette scène de décapitation, eh bien, nous ont montré qu'en fait c'est un peu une exception. Il y a des découvertes archéologiques dans toute la Mésoamérique qui vont confirmer en tout cas l'association du jeu de balle et du sacrifice humain, c'est vrai. Mais je crois qu'il faudrait aussi le penser, le songer qu'à Mexico, Tenochtitlan, chez les Aztèques, c'était la même chose. Mais je dirais que l'idée reçue que le jeu de balle implique un sacrifice humain, c'est d'abord croire que le jeu est vécu comme une sorte d'autarcie, qu'il n'y a... Moi, je crois qu'il n'y a jamais eu cela, en fait, dans le monde aztèque. Mais en revanche, comme le sacrifice demande toujours un prélude, je crois qu'il faut considérer que le tlachtli, comme on l'appelle chez les Aztèques, le jeu de balle, a bien dû remplir cet office, mais je dirais aussi que le jeu de balle correspondait à une sorte de forme de jeu pré-sacrificiel. C'est-à-dire que la signification du jeu, je pense qu'elle tend à renforcer cette interprétation. Je dirais même qu'il n'y a pas de doute que la balle symbolise le soleil et que la lutte qui oppose les deux équipes se réfère à ce combat cosmique ou cosmologique qui est fondamental, bien sûr, cet enjeu de la survie du monde, et que la balle de caoutchouc, ça vous le savez peut-être, elle s'appelle Olin. On l'appelle Olin, mais Olin dans la sémiologie indigène, ça représente en fait le concept du mouvement. Je m'explique. Quand on dit Olin, on dit caoutchouc, c'est la traduction exacte. Et quand je dis Olin, eh bien, ça veut dire aussi ce qui rebondit, ce qui bouge, ce qui a du mouvement. Donc vous comprenez que dans le mot caoutchouc même, de manière étymologique, on a en même temps cette extraordinaire puissance, cette force, ce mouvement que j'évoquais. Et pour les Aztèques, ce mouvement, c'est toujours quelque chose qui était menacé parce qu'on avait très peur de ce côté, comment est-ce qu'il faut le dire, cette façon de s'apaiser, en tout cas cette décélération, cet épuisement des forces. Tout cela était sous-entendu. Essayez d'imaginer une balle que vous lâchez par terre. Elle rebondit, mais elle ne remonte jamais exactement à la même hauteur. On a l'impression que petit à petit, cette énergie se perd, même si de manière déjà extraordinaire, elle se répète. Alors c'est aux hommes, c'est à nous, les Aztèques, c'est à nous, les Mayas Toltecs de Chichen Itza, qu'il incombe de donner véritablement cette impulsion qui va réactiver tout le mouvement du cosmos. Et c'est en tout cas ce qui me fait comprendre, enfin ce qui justifie en tout cas le sacrifice qui a été avancé par les Aztèques. Le sang des victimes va nourrir le soleil et il va restaurer. Mais quand je dis restaurer, pensez à restaurant bien sûr. Il va restaurer véritablement l'énergie. Et le jeu de balle illustre parfaitement cette croyance, les gestes des joueurs qu'on vient de voir, ils cherchent à entretenir ce mouvement de la balle et au-delà de ce symbole, la dynamique, cette dynamique énergétique du cosmos. Mais ce qui importe peut-être de voir un peu plus avant, c'est qu'il y a eu plusieurs formes de jeu. Certaines parties correspondaient effectivement à des rites que j'ai appelés pré-sacrificiels, mais il y en a d'autres qui devaient se faire dans un contexte, est-ce que je peux l'appeler beaucoup plus souriant? Quand on voyait la mort sourire tout à l'heure, on se pose des questions. Les chroniqueurs affirment que le Tlachtli était aussi un passe-temps uniquement aristocratique, hein, il faut bien le comprendre, et on disait que les grands seigneurs, pour se reposer des guerres perpétuelles, étaient capables de jouer à la pelote. On dit aussi que le jeu, c'était une sorte d'exercice physique qui était destiné à servir d'entraînement à la guerre. Et là, vous voyez que ça n'est plus tout à fait aussi souriant. Et le détail le plus troublant, c'est qu'on insiste sur le fait que le jeu de balle est officiellement réservé aux seigneurs. Alors, qu'est-ce qu'un seigneur? Parce que le terme de seigneur, lorsqu'on le traduit en nahuatl, c'est-à-dire en aztèque, on dit tlatoque. Or, un tlatoque, c'est exclusivement des chefs de guerre, des chefs qui partent à la guerre, c'est-à-dire des capitaines, effectivement, ou des généraux, ou comme vous le voudrez, des dignitaires de l'armée, en tout cas. Et encore une fois, on peut donc affirmer, comme on l'a déjà vu la dernière fois, qu'il y a une sorte de collusion entre le jeu tel que on croyait l'entendre avant de mieux le connaître chez les Aztèques, et cette guerre. Alors, cette collusion, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'elle a quelque chose d'étrange, parce que quand on s'exerce au Tlachtli, eh bien, c'est d'abord une idée qui fait que on va jouer à la balle, bien sûr, mais elle se pratiquait par des seigneurs, et le fait même de comprendre qu'on n'a que des chefs, c'est qu'on devra mettre en jeu des manteaux de coton, par exemple, ça c'est ce qu'on va mettre sur la table, une sorte de pari, il y aura des joyaux, il y aura des chemises brodées, on peut même par exemple utiliser des plumes précieuses, de l'or, et on va parier même ses champs, ses possessions, sa maison, on va parier des esclaves, pourquoi pas, et je crois que les enjeux s'apparentent en fait à des récompenses qui sont d'habitude données, et on l'a vu la dernière fois, à des guerriers. C'est-à-dire, c'est ce qu'on donne normalement à l'élite, c'est ce qu'on donne à tous les chefs qui sont victorieux. Alors même les cadeaux nous font comprendre que ça n'est pas une chose aussi simple que cela. C'est pas un pari ou un enjeu comme on le conçoit pour quelque chose de normal. Non, le jeu de balle demeure dans le fond une sorte de substitut ludique de toutes ces actions de guerre. Et je dirais que l'irruption du pari, elle pose malgré tout un certain problème, parce qu'on sait que la société aztèque est une société qui est terrible véritablement déterminée, je dirais même surdéterminée, et elle est totalement prédestinée. Ça, c'est très important. Le jour de sa naissance, chaque individu reçoit un destin. Et le contenu de ce destin est dans un signe. Ce signe, on l'appelle tonali. Qu'est-ce que le tonali? Ce destin, il enferme la vie de chaque personnage, de chaque être, dans une contrainte qui me paraît extrêmement étroite. Je crois qu'on commence à le deviner. Il y a un caractère extrêmement préétabli et il y a un rôle social qui est totalement prédestiné. Alors, comment dans ce cadre, le hasard peut-il exister? Comment est-ce qu'on peut déployer l'idée du hasard? Je crois que la chance devait pouvoir intervenir, mais c'est pas une chance comme on l'entend, parce que par nature et par définition, rien n'est susceptible de modifier le destin ou cette façon de penser au destin qui est inscrite dans le nom des hommes. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous appelez Seth Jaguar et que vous jouez à la pelote, vous allez voir, c'est parce que vous êtes Seth Jaguar que vous allez gagner ou que vous allez perdre. Des choses curieuses, parce que j'essayais de parler du destin, mais je vous dirais qu'effectivement les Aztèques n'ont jamais donné de statut au hasard. C'est-à-dire qu'il n'existe absolument aucun mot dans la langue aztèque, dans la langue nahuatl, aucun mot pour exprimer le concept du hasard. Alors le seul équivalent de ce que nous appelons le hasard, c'est justement cette roue des signes. Alors imaginez une roue avec 20 signes, une sorte d'engrenage du calendrier qui jour après jour distribue de façon vraiment comme une roue mécanique le tonali au nouveau-né. Alors si vous êtes né un certain jour, ben vous serez marqué par la dent de cette roue étrange. Et en revanche, ce qui est prévu n'est pas nécessairement connu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait essayer de percer le secret de son destin? On imagine facilement cet attrait que devaient avoir les anciens Mexicains pour toutes les techniques de divination. Il ne manquait jamais une occasion de questionner ce destin. Et je crois que dans cette question au destin, on comprend mieux ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le pari qui sert d'enjeu aux parties du jeu de balle. Je crois qu'elle relève de cette idée exactement, de ce cadre de pensée. On ne gagne pas parce que l'on a bien joué, on gagne parce que l'on est né sous un signe faste. En tout cas, un signe qui serait plus favorable que celui de son adversaire. Imaginez une fois de plus celui qui vient d'avoir la tête tranchée. Il savait que par son signe, il luttait contre quelqu'un qui avait un signe supérieur au sien. Et c'est ce qu'avaient judicieusement observé les chroniqueurs espagnols. Je relis là carrément une phrase. Du bon joueur habile à la balle, il disait qu'il tenait son talent de son destin, de sa bonne fortune et du signe sous lequel il était né. Et ils attribuaient la disgrâce de celui qui perdait à son mauvais signe. Est-ce que vous saisissez que l'épreuve du tlachtli, l'épreuve du jeu de pelote, permet ainsi à chacun des joueurs de tester la nature de son destin, d'évaluer ses capacités de succès. Mais attention, un succès pour l'avenir. Et là, on comprend mieux, effectivement, comment on osait jouer. Ben, quand on prend l'idée russe de la roulette, vous me saisissez là, on est beaucoup plus dans le vrai. Chaque fois que l'on entrait sur un terrain de jeu face à un autre capitaine, face à un autre joueur, on jouait un peu à cette roulette russe. Et c'est ce qui explique que les parties de balle étaient disputées entre certains chefs, entre certains grands souverains. En cas de conflit, on pouvait économiser des frais. Quand je parle de frais, c'est bien sûr de l'énergie. Il y a de l'énergie dans la guerre. Alors on économisait cette guerre avec une sorte de décision divine. Souvent, moi, je compare ces étranges jeux à ce qu'on faisait dans le Moyen-Âge. Vous vous rappelez de ces duels étranges où on disait que le jugement de Dieu était le seul qui pouvait départager deux chevaliers? Ben, c'est un peu cela. Le résultat de la partie, ce n'était pas seulement l'indice d'une supériorité qui serait technique, mais je crois que ça indiquait de quel côté penchait véritablement le destin. Et les hommes n'avaient qu'à se soumettre à cette idée. Et voilà pourquoi des souverains pouvaient sans danger, et là c'est très important, ils pouvaient, sans avoir peur, déléguer véritablement leur rôle de joueur et se faire peut-être remplacer sur le terrain par des hommes qui étaient spécialement entraînés. Donc un peu comme si tout à coup, en tant que grand souverain, vous envoyiez à votre place un double, un chevalier qui, lui, étant bien entraîné, allait peut-être gagner votre propre partie et vivre votre propre destin. Alors le jeu de pelote, c'est un véritable révélateur de ce que j'appelle le pouvoir précolombien. On a des cas assez étranges, parce que si je prends des exemples de la mythologie précolombienne, on parle souvent de dieux qui ont lutté ensemble. Là, j'évoquerai Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, c'est un dieu étrange qui est un guerrier noir, obscur. Il va battre Quetzalcoatl, le grand serpent à plumes. Et il va le battre là, sur un jeu de pelote à Tula. Et ça va marquer le triomphe d'une idéologie, c'est celle des sacrifices. Le mauvais guerrier, le guerrier noir, va gagner sur celui qui aimait la paix, les arts, et qui aimait les choses douces, et qui pensait qu'il était plus facile d'offrir simplement des fruits et des fleurs aux dieux. Alors ça, c'est simplement la justification d'une nouvelle idéologie. Deux dieux qui se battent ensemble, et c'est naturellement le plus puissant, le plus guerrier, le plus méchant, entre guillemets, qui va gagner. Alors, au cours de cette partie, par exemple, on a eu Huemac, le dernier grand souverain toltec, qui va affronter ce qu'on appelle les Tlaloques. Ce sont des dieux de l'eau, enfin des dieux de l'eau qui existaient de façon autonome à Tula. Il les bat, mais il refuse ce qu'ils vont lui donner en tribut. C'est-à-dire qu'il fait un peu la fine bouche, on lui offre des épis de maïs, on lui apporte cela sur des plateaux, vous imaginez, ce sont les vaincus qui lui donnent certaines offrandes, et parce qu'il va dédaigner tout cela, bien les Toltecs vont affronter bientôt une sécheresse, une véritable famine, et on voit en fait la fin de leur puissance. Donc vous voyez qu'on peut même arrêter une civilisation tout simplement parce qu'un jeu de pelote ou une partie de jeu n'a pas été bien réglée. Ce jeu mexicain, il a donc aussi ce que je dirais des titres. J'ai envie de parler de la noblesse là, puisqu'on vient de parler des dieux, on vient de parler des grands personnages, mais je crois qu'il y a aussi un autre côté qui m'intéresse, et vous allez peut-être mieux comprendre comment fonctionne je dirais la débauche, ou le côté dévoyé du précolombien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être quelqu'un qui se laisse aller et en même temps payer tribut tout au fond, tout au bout d'une vie. Je dirais qu'il y a eu des témoignages extrêmement intéressants, parce que il y avait un jeu parallèle qui était disputé en général en dehors de tout spectacle, hein, parce qu'on imagine bien ces spectateurs que j'évoquais tout à l'heure, où on offrait en Paris ses plus belles parures, des bijoux, etc. Est-ce que vous avez compris pourquoi un joueur acceptait ces présents? C'est surtout, ce qui me paraît étrange, c'est ceux qui acceptent de les donner. C'était simplement pour vous dire qu'on ne gagnait pas tous les jours, donc on pouvait venir tout habillé, et un jour on gagnait, un jour on perdait. Mais il y avait quelque chose qui se faisait aussi, là je le disais, dans une sorte de clandestinité. Alors c'était un jeu qui était subordonné uniquement au pari, et comme on le disait tout à l'heure, on avait une sorte de compétition privée entre deux adversaires. Et on insiste parce que ce jeu était présenté comme un véritable détournement, et le chroniqueur nous dit même que c'était quelque chose qui ne correspondait qu'aux gens de basse condition. Ils jouaient simplement par vice, ils jouaient par intérêt. Alors je dirais qu'on pourrait avoir l'impression que c'est un jeu qui est tout à fait normal, un peu comme les nôtres, hein, que ça deviendrait quelque chose de sécularisé. Mais attention, quand on voit le côté profane et qu'on pense à du jeu ou à un côté ludique pur, non. Lorsqu'on voit les détails, le chroniqueur nous dit justement qu'il y avait des superstitions, et ces superstitions, elles étaient étranges parce qu'on se préparait au jeu. Il disait que tous ces jeux, enfin, ces gens qui allaient vouloir jouer de façon clandestine, venaient pendant la nuit, ils déposaient la balle et ils se servaient d'une sorte de patène, ils suspendaient à un poteau les gants, la ceinture de cuir, cette ceinture qui les protégeait, qu'ils utilisaient autour de leur taille, et qu'ils faisaient cela avec des instruments, ils étaient devant ces instruments de jeu, ils les adoraient, ils leur adressaient des invocations et des paroles extrêmement superstitieuses, une sorte de dévotion. Et pour que la balle leur soit favorable, ils invoquaient les montagnes, les eaux, les sources, les ravins, les arbres, les bêtes féroces, les serpents, je sais pas, le soleil, la lune, les étoiles, les nuages, la pluie. Donc si le chroniqueur parle autant de ces offrandes, et qu'à la fin de cette prière, on laissait tomber un peu d'encens dans un brasero, et qu'ensuite on offrait en sacrifice une balle et avec les accessoires de jeu, et qu'on offrait même de la nourriture, c'est que le lendemain, eh bien, on allait pouvoir commencer à jouer et rechercher un adversaire. Alors si je vous parle de cela, c'est que même s'il y avait un côté profane, on sent que tout cela reste très religieux dans le fond, et que les joueurs visaient à obtenir des gains matériels, c'est vrai, mais que l'issue des parties, elle demeurait quand même soumise à cet arbitrage du destin, et qu'elle dépendait de la bonne ou alors de la mauvaise foi ou de la mauvaise fortune de chaque joueur. Et il est frappant de penser que, en fin de compte, un joueur professionnel ne se montre jamais en train de s'entraîner, mais simplement en train de prier, d'implorer la fortune, de supplier les dieux de lui être favorable. Ça y est, vous êtes guerrier jouant à la pelote, capitaine vainqueur. Vous êtes souverain qui a délégué ses pouvoirs à un double. Vous êtes ce profane qui a prié toute la nuit, qui a lâché 4 fois sa balle. Dans la nuit, là, il l'a vu rebondir 4 fois. Et il sait qu'au moment où il commencera la partie, le chiffre 5 pourra se développer. Le 5, c'est le hasard, c'est le jeu. Le jeu, eh bien, je crois qu'on a petit à petit esquissé le portrait de ce joueur aztèque. Vous avez compris que c'était quand même un personnage qui était déconsidéré. Et dans l'échelle de ses valeurs, de ses valeurs indiennes, le jeu, je crois que c'était vraiment quelque chose de négatif. Lorsqu'on essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne, je dirais qu'on lui préfère le mensonge, on préfère la lâcheté, on préfère même la présomption, qui compte pourtant parmi les défauts peut-être les plus redoutés de ces Indiens aztèques. Et le jeu est réprouvé, je dirais, pour des raisons philosophiques, des raisons morales aussi, on l'a vu, des raisons civiques, bien sûr. Et c'est une prohibition, en fait, qui est vraiment draconienne. Elle va découler de la volonté aztèque d'économiser à tout prix l'énergie ambiante. Et pour cela, dans la vie courante, on va codifier, dans le sens de cette retenue, de cette efficacité, je veux dire par là qu'il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de geste inutile, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de paresse, il n'y aura pas d'emportement, il n'y aurait pas de mollesse non plus. Le savoir-vivre, c'est un idéal, bien sûr, il est dicté, je dirais, à sa juste mesure. Tout est juste et tout est mesuré. Le jeu, c'est encore une dépense pure qui apparaît, par exemple pour les grands chefs de Mexico, comme un gaspillage. C'est un gaspillage qui n'est pas acceptable et il est donc toléré uniquement comme quelque chose d'utile sur le plan social. Le jeu, c'est donc quelque chose qui officiellement va être mis hors la loi. Et en conséquence, le joueur qui joue à des fins égoïstes, celui qu'on a ressenti là tout à l'heure, il se trouve exactement, comment est-ce que je peux dire cela ? Il contrevient en fait à cette espèce d'impératif de sauvegarde énergétique. Il transgresse même toutes les normes sociales qui associent le jeu à un véritable rite. Vous avez compris la différence entre le simple jeu et ce rituel. Il y a quelque chose de très lié. Mais le goût du jeu, bon, chez les Aztèques, c'est une inclinaison qui sera personnelle uniquement. Vous êtes seul à avoir ce tempérament en particulier. Et s'il existe des joueurs, c'est parce que le calendrier rituel compte parmi ces 20 signes que j'évoquais tout à l'heure, cette grande roue des coefficients qui sont justement des coefficients de jeu, des coefficients ludiques. On est joueur si l'on est né sous le signe du jeu. Nul n'échappe à son destin. Et ça, on peut déjà le savoir, uniquement parce qu'on porte un nom qui se rapporte à cette étrangeté de la débauche et du jeu. Alors si vous me dites quel jour vous êtes né, avec votre date de naissance exacte, je vous donnerai votre signe aztèque, pourquoi pas. Votre signe aztèque, si par hasard il tombe sur le jour lapin ou sur le jour fleur, ben là vous seriez totalement des joueurs. C'est-à-dire que le lapin, on l'appelle Toshkli, c'est joli le petit Toshkli. C'est un signe qui est spécialisé et qui prédispose, on va le dire, lorsqu'on prend un peu trop de pulque ou chez nous un peu trop de whisky, eh bien c'est l'ivresse. C'est l'ivresse, c'est un univers étrange, ce symbolisme aztèque. Le lapin, c'est un signe agricole qui est associé à la lune, qui est associé à l'octli. L'octli, c'est ce poulque, cette étrange bière que l'on faisait avec l'hydromel qu'on extrayait de l'agave et qui, effectivement, au bout de 4 jours, après avoir fermenté, se transforme en bière, en alcool. Et l'octli, chez les Espagnols, on l'a baptisé poulque, ça je vous l'ai dit, mais c'est la seule boisson alcoolisée que connaissaient véritablement les Aztèques. Et ils la tiraient donc de cette étrange agave qu'on retrouve encore dans le sud de la France, cette plante qui a des épines, qui on la voit partout sur les hauts plateaux. Et cette boisson fermentée, bon, je crois qu'elle existait depuis des millénaires sur l'Altiplano, et il y a une certaine valeur culturelle autour de l'ivresse, parce que l'ivresse, elle peut apporter en fait de bonnes choses, c'est-à-dire qu'elle peut permettre de passer, d'être utilisée comme véhicule pour comprendre l'au-delà, je dirais même, mais c'est quelque chose qui a été terriblement Moi, il y a une sorte de code comme ça qui a été fait par les chefs aztèques. Et l'ébriété, enfin, lorsqu'on se saoule, on pense que c'est un comportement ludique. L'homme ivre, si vous le regardez, il s'agite, il parle fort, il commence à gesticuler, il se montre même un peu agressif. On en voit qu'il devient carrément fanfaron. Il n'y a qu'à rentrer dans une pulqueria aujourd'hui pour se rendre compte qu'effectivement, le pulque a toujours les mêmes propriétés. Ce sont les attitudes que les Aztèques détestaient, qui étaient en somme exactement contraires. À ce départ de civisme que j'évoquais, c'est-à-dire le calme, la pondération, la sociabilité. Et dans un discours d'intronisation, par exemple, lorsqu'un souverain était nouvellement élu, eh bien, il faisait des discours extrêmement forts sur l'ivresse, et il recommandait surtout de ne jamais perdre le bon sens, et qu'il fallait craindre l'ochtli, qui était une chose horrible et dégoûtante. Alors, c'est aussi l'ochtli qui est à la racine de l'origine de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais, de toute perdition. C'était ce côté ivrogne qui permettait la révolte, les troubles dans la cité ou même dans les royaumes. Et je dirais qu'il parle de l'ivrognerie en disant que ça va permettre l'adultère, les viols, qu'il y aura des incestes, qu'en général il y a de faux témoignages, qu'on va commencer à dénigrer son voisin, qu'il y aura des disputes. Donc c'était vraiment l'ivresse qui était responsable de tout cela. Et malgré cette mise en garde, il y avait surtout alors des châtiments qui étaient exemplaires, parce que lorsqu'on avait eu la malchance de naître sous un signe lapin, on n'avait pas su, on n'avait peut-être pas su, même pas pu corriger cette tendance qui était inscrite dans votre signe. Et on disait par exemple que quiconque naissait sous le signe de lapin, eh ben, obligatoirement il serait ivrogne et qu'il serait incliné à boire de manière immodérée et qu'il rechercherait toujours du pulque et qu'il allait boire tous les jours, qu'il n'en serait jamais dégoûté, qu'il terminerait certainement avec les mouches, avec la paille, il va boire et il va continuer à payer son pulque, il va l'acheter en vendant son manteau, en vendant son pagne, il va devenir pauvre, malheureux, abandonné de tous. Vous y êtes? Maintenant, on commence à sentir cette dépravation. Et celui qui était né sous ce signe n'avait aucun remède. Il était marqué par son destin. Et la première sanction de l'ivresse, c'était justement cette espèce d'exclusion sociale. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, on ne peut plus rester dans la société de façon normale. Et le jeu, comme il est inscrit comme cette base même de la mort, enfin ce gène de la mort, ce gène, une sorte de départ létal, je crois qu'il faut comprendre que toutes ces manifestations qui ne sont pas contrôlées, qui ne peuvent pas être contrôlées, vont se solder par d'abord le fait d'être mis en marge de la société et va obligatoirement vous amener petit à petit à une mort prématurée. Et la société aztèque, elle tient surtout à se préserver de ce danger qu'elle considère comme une sorte de contamination. Et le scénario est tout à fait identique si vous êtes né sous le signe de la fleur. La fleur, c'est Xochitl, un nom, un prénom même qu'on porte encore au Mexique lorsqu'on est une petite fille et qu'on a envie de porter un nom aztèque. C'est le jeu au sens beaucoup plus large. La fleur, c'est la pulsion érotique, c'est le goût du pari qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a dans la licence sexuelle, dans cette façon de jouer les jeux de l'amour, il y a quelque chose qui est dangereux parce qu'il n'y a pas de finalité dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité démographique, on ne fait pas des enfants, on aime l'amour, pour le sens physique de l'amour, et c'est très dangereux parce que cette énergie sexuelle, c'est un stock pour un aztèque, un stock qui n'est pas renouvelable, et une fois que ce capital complètement dilapidé, eh bien on pensait qu'on serait ruiné et qu'on serait naturellement impuissant. Mais le plus inquiétant dans la personnalité de quelqu'un qui joue, c'est son attirance pour les jeux de chance. Et j'ai envie de vous parler là, juste après, sortez vos petits haricots rouges et imaginez une sorte de jeu en forme de croix avec des petites cases. Allez, on va simplement jouer au patoï. c'est une sorte de jeu de loi, une sorte de jeu de dames. On le joue avec des haricots, ou plus exactement avec cette espèce de haricot, le patoí, qui a donné son nom au jeu. Ce sont des haricots rouges qui sont connus au Mexique sous le nom de colorín. Aux États-Unis, on les appelle mescal bean. Vous savez, ce sont des haricots qui sont d'ailleurs, je dirais, un peu empoisonnés. En tout cas, ils sont inconsommables. Et cette graine, elle contient en fait de la cytine, ou la cytine, je crois. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est une chose assez forte. Et ce n'est pas de la mescaline, comme je le disais en anglais, mais quelle que soit la nature de l'alcaloïde que renferme ce petit haricot rouge, je crois qu'il faut le ranger dans la catégorie des psychotropes. Donc c'est une drogue, le patoï, au départ c'est une drogue hallucinogène. Et là on a déjà un petit indice qui nous permet de comprendre que ce jeu de chance chez les Aztèques était de nouveau lié à quelque chose de curieux, c'est-à-dire l'absorption toutes ces substances, enfin toutes ces drogues est associée à la divination, au côté chamanique. Et même ceux qui sont sédentarisés à Mexico, là je pense aux Aztèques, plus que ceux qui sont d'origine nordique, c'est-à-dire les nomades, ils conservaient toutes ces pratiques, bien sûr, lors d'établissements. Par exemple, on voit très bien les chamans qui cherchent à connaître une maladie, bien souvent ils prennent des drogues. Et le patoï au départ, ou le patoï, c'était naturellement de nouveau quelque chose qui était lié à ce questionnement, c'est-à-dire à l'idée de connaître véritablement le destin. Et juste avant la conquête espagnole, on jouait sur une natte avec un motif en forme de croix, et on nous dit surtout que ce jeu était divisé en cases, et qu'il y avait deux joueurs qui lançaient les haricots, et autour d'eux, on avait des enjeux. Alors la scène se passe sous le regard de la protection du dieu du jeu, c'est Macuil Xochitl. Vous voyez que le mot Xochitl, le mot fleur, revient de nouveau, et Macuil, ça veut dire cinq. Alors cinq fleurs, il n'y a pas pire, alors c'est le déséquilibre absolu. Et il y avait des spectateurs, il y avait aussi des gens qui pariaient, bien sûr, et on nous raconte un peu comment fonctionnait ce jeu, mais c'est assez indécodable aujourd'hui. Je dirais que grossièrement, il faut penser simplement à des petites pierres que l'on avance en fonction des signes qui sont peints sur les petits haricots. On ne connaît pas vraiment les règles, elles sont restées indéchiffrables aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est la croix. C'est un symbole cosmologique, et que je dirais même que l'objectif des joueurs, on dirait que c'est la conquête des cases qui sont au centre. Et le jeu, il avait donc une signification religieuse aussi, et le plus troublant, c'est certainement que le jet du haricot sur une natte correspondait en fait à une technique de divination qui est encore utilisée, que j'ai souvent vue au Mexique. D'ailleurs, tout porte à penser que ce jeu, c'était une sorte de doublet. Il y avait le côté ludique, bien sûr, mais il y avait aussi le côté divination par le jet des graines. Et sous l'apparence d'un jeu, le joueur qui lance les haricots, ben en fait, il essaye de solliciter le destin. Et le patoï, c'est pas un jeu de hasard, mais c'est au pied de la lettre, un jeu de chance. Et je crois qu'il faut faire la différence, c'est-à-dire où le destin va véritablement s'incarner dans la chute de ces petits haricots que je peux maintenant appeler des haricots sacrés. Alors tous les malheurs des joueurs, de ceux qui aimaient jouer de façon invétérée, viennent de ce que ce signe fleur prédispose au goût du risque, ça je crois qu'on l'a compris, et qui est une sorte d'avidité aussi du jeu, et que c'était bien sûr cette garantie de réussite qui était mise en doute, et qu'en fait on n'était jamais sûr de gagner, parce que le signe du jeu, c'est justement au contraire, chez l'Aztèque, c'est toujours le signe de la perte. Et là vous venez de comprendre que par définition on rentre dans un domaine curieux, parce que les conceptions aztèques, c'était simplement logique, c'est-à-dire le jeu, c'est tout ce qui se dissipe, tout ce qui est perdu, je dirais même la déperdition. Et comme la fleur Xochitl était un emblème de succès, en même temps on peut se poser la question, parce que succès et perte vont toujours de pair. Dans le vocabulaire nahua, lorsqu'on disait joueur, qu'on prononçait le mot joueur, on disait immédiatement que c'était un perdant. Obligatoirement, on voyait la notion de perte. Et quand on voit les prêtres qui interprètent le calendrier, ils disaient que tous ceux qui étaient nés sous le signe un fleur, eh bien, n'auraient absolument aucun respect pour les autres, ni pour eux-mêmes, et qu'ils auraient toujours une sorte de superbe, d'arrogance, et que ces gens-là seraient des abandonnés des dieux, et que tout le monde les mépriserait. Alors, je crois que c'est important de savoir que on se sentait obligatoirement rejeté de tous lorsqu'on portait ce nom, et bon, il y aura obligatoirement un peu d'angoisse, on allait craindre obligatoirement la maladie. Vous voyez, je cherche là en ce moment tous les défauts qui correspondent à un signe, à ce destin, et on disait bien sûr que la chose qui allait guetter quelqu'un qui portait malheureusement ce nom et ce chiffre, c'est qu'il deviendrait pauvre. il allait finir solitaire, il serait oublié de tout le monde, et qu'il voudrait en fait mourir, c'est sa recherche, quitter cette vie pour aller ailleurs. Alors tout ce qu'il possédait ou qu'il allait posséder dans sa vie, ben, ce sera un peu comme, avec quoi est-ce que je vais le comparer? Vous avez déjà vu un bloc de sel qu'on pose dans l'eau? Eh bien c'est cela, c'est un peu la vie de quelqu'un qui est né sous ce chiffre et sous ce destin de la fleur. Et si une femme par exemple naissait sous ce signe, bon, ce serait une excellente brodeuse, mais elle devrait faire des pénitences pour éviter que son signe ne soit contraire. Sinon elle vivrait dans la pauvreté, le dédain de tout le monde, elle serait vicieuse, elle vendrait son corps. Et ça c'est quelque chose d'étrange chez les Aztèques, c'est à cause de son signe, à cause de sa naissance. On le voit, la fortune, celle qu'on comprend par le destin, ben, elle n'est pas très charitable pour tous ceux qui sont nés sous un signe pour en fleurie. Regardez la roue du calendrier, celle qui est sur le grand calendrier aztèque, là, dans la salle Nahua du Musée d'anthropologie de Mexico. Le premier signe tout en haut qui part vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, c'est un alligator, c'est la tête d'un alligator. Vous devez commencer en disant un crocodile, un alligator, c'est le début des choses. Est-ce que vous avez déjà vu un alligator sur l'eau? On a l'impression de voir tout à coup des petites montagnes qui affleurent l'eau primordiale. C'est la création du monde, c'est la genèse du monde, c'est le début du temps du calendrier. Et puis ensuite, vous passez aux autres signes. Il y aura la maison, la mort, et puis vous passerez au petit lapin de tout à l'heure. Et vous terminerez avec, tout au bout, la fleur. Il faudra attendre quelques tours du calendrier pour prononcer 13 fleurs. 13 fleurs, c'est l'idée même de la mort. C'est la fin des choses. La fleur, c'est bien sûr ce destin étrange, mais c'est aussi la mort, parce que la fleur de la vie, c'est bien sûr le cœur humain, celui que l'on offrira à ses dieux, cette espèce d'étrange figue de barbarie qui est verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur, que l'aigle tient dans ses serres lorsqu'il fonde Mexico-Tenochtitlan sur un rocher au milieu de la lagune. Le premier jour, c'est la terre qui sort sur les eaux. Le dernier jour, c'est cette fleur qui meurt et qui est offerte en sacrifice. Vous voyez que le destin se tient. Au moment où je colle 13 fleurs et que je redis un alligator ou un cipactli, ome cipactli, je viens de recommencer un cycle. Et vous voyez maintenant aussi que la vie du joueur, eh bien, c'est un engrenage. Un engrenage comme ses trous. Parce qu'il est condamné à perdre. Il va jouer au jeu de pelote, nous l'avons vu. Il va jouer au patoli ou patoi. Ce petit jeu étrange que vous voyez là avec cette croix et ces petits haricots rouges, il va automatiquement amener le joueur à parier. Un jour, il va parier plus que ce qu'il a, plus que ce qu'il possède. Et lorsque quelqu'un a perdu tous les enjeux qu'il avait emportés avec lui, lorsqu'il avait perdu ses vêtements, quelques pierres vertes ou des plumes précieuses qu'il portait sur sa coiffe, ben il va jouer sur parole, il va engager ce qu'il avait, c'est-à-dire... Il va jouer par exemple sa maison, il va continuer à perdre, il va même prendre le gagnant chez lui et il va continuer, il va lui demander de remettre l'enjeu qui était convenu. Et s'il est dans l'incapacité d'honorer sa dette, on va le jeter en prison, c'est ce qu'on faisait chez les Aztèques. Et si la femme ou ses enfants ne le sortaient pas en payant cette dette à sa place, il devenait tout simplement l'esclave de son créancier. Là vous voyez mieux la scène, parce que la plupart du temps, après avoir joué tout ce qu'il possédait, y compris sa maison, y compris ses terres, les vêtements de sa femme, eh bien les grands joueurs en venaient à jouer leur propre liberté. Ils ne jouaient... Oui, ils devaient finalement se donner eux-mêmes, ils se jouaient eux-mêmes, si j'ose dire. Ils estimaient un prix, ils se donnaient un prix, et ils savaient que s'ils ne pouvaient se racheter dans un certain délai, il deviendrait à perpétuité l'esclave du vainqueur. Être esclave d'un vainqueur, c'est... Oh, je n'aime pas le terme d'esclave, parce que dans la société aztèque, c'est un terme étrange. Il n'y a jamais eu de véritable esclavage. L'esclave, c'est simplement celui qui est tout en bas de la société. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Et voilà, en fait, la fin de la destinée du joueur. Je reprends toute l'idée, dans la mesure où on va comprendre maintenant que le destin qui vous a permis de naître, lorsque votre père ou votre mère ont été voir le porteur des destins, celui qui, devant eux, va ouvrir cet étrange livre. Vous savez, les livres précolombiens sont pliés en accordéon et on a l'impression de se retrouver devant un message qui fait 10 ou 13 mètres de longueur. Et là, il y a sans arrêt des petits points de couleur, des petits points bleus, des petits points rouges à côté de signes. Vous avez vu tout à l'heure la tête de l'alligator de Cipactli. Vous auriez une petite maison en forme de temple qui vous donnerait un caractère plus intériorisé. Vous auriez la mort qui, au contraire, est tout à fait bénéfique. Rappelez-vous de celle de tout à l'heure. Elle était en train de vivre, elle est en train de vous donner la suite de l'énergie. La mort, c'est le début des choses et non pas la fin. La mort, ça n'est pas vécu comme nous le vivons, c'est une chose attendue, c'est le seul moment important de la vie pour un précolombien. L'existence n'a pas d'importance. Cet enfant vient de porter un signe, il s'appelle Deux Lapins. Il va boire toute sa vie. Cet enfant va naître un fleur, il va jouer toute sa vie. Mais ce qui compte, c'est l'heure de sa mort. Et je crois que lorsqu'on est devenu l'esclave du vainqueur, on comprend que la fin du joueur est totalement prédestinée, qu'elle est véritablement désignée. C'est-à-dire qu'on est engagé sur une sorte de pente, une pente fatale, et qu'on va perdre continuellement chaque jour, et qu'on va en fait mettre sans arrêt sa liberté en jeu. Mais ce jour-là, eh bien, il faudra bien jouer pour de bon, c'est-à-dire jouer sa propre vie. En jouant sa vie, car une fois que vous êtes devenu esclave, on peut le plus légalement du monde être vendu. Être vendu publiquement. Ça, c'est une chose qui permet à son propriétaire de recevoir l'équivalent de sa dette de jeu. Il vient de gagner de l'argent, ou en tout cas échanger des produits, peut-être du cacao ou des plumes précieuses, contre cet homme. Et quelqu'un va l'acheter pour l'offrir en sacrifice. Et ceci est une véritable marchandise, une véritable marchandise comme un morceau d'énergie. La mort, cette fois, elle est au rendez-vous. Et là, j'ai envie de fermer la boucle. Et oui, car tout se boucle chez l'Aztèque. Le jeu mène à la perte et à la déchéance, mais la marginalité, elle ne peut être que transitoire. Car dans cette société qui est extrêmement... comment vous dire cela ? Elle est centrifuge, en fait. C'est vraiment ce qu'est le monde aztèque. On ne peut pas rester longtemps en dehors de la société. L'esclavage, eh bien, ça contraint le joueur qui est maintenant déchu à retrouver une fonction. Mais une fonction totalement utile, une véritable fonction utilitaire. Derrière l'esclave, on voit déjà se profiler la victime sacrificielle. Et tout au bout de cette trajectoire, le destin du joueur va lui faire retrouver, en tout cas, j'irais même recouvrer un rôle social, un rôle religieux, qui va rendre tout le monde satisfait. C'est-à-dire que l'exigence communautaire est enfin atteinte. Ce joueur de patelie, qu'on croyait voir échapper au sacrifice, eh bien finalement, c'est encore lui-même une offrande. Il devient l'offrande telle que, au moment de la conquête, les religieux l'ont bien compris. Ils avaient une bonne raison de dénoncer le démon du jeu lorsqu'ils disaient qu'à Tenochtitlan, tenter le diable, ça conduisait obligatoirement à la pierre des sacrifices.